Richard Lafalaise, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'objet de votre visite à Mambasa?
L'objet de ma visite était de venir voir un peu la mise en œuvre, comment se passait la mise en œuvre du projet IRF, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, le Peace Building Fund, projet que nous avons lancé fin 2014, début 2015.
Oui, et qu'est-ce que vous avez constaté sur terrain?
C'est un projet que nous avions développé dans l'année 2014, qui est un projet pilote. Il y en a deux, il y en a un à Calais, Sud Kivu, et un ici à Mambasa, ancienne province orientale. C'était un projet qui prenait en compte la révision de l'ICA-13. Comme vous savez, cette révision a été terminée en fin 2013. Nous voulions donc lancer ces deux projets pilotes pour tester la révision de l'ICA-13 qui est construite autour de 5 piliers qui prend en compte les 4 grandes dynamiques de conflit de l'Est du Congo qui sont la sécurité ou l'insécurité, l'identité et la terre, l'exploitation de ressources naturelles plutôt illégales et bien sûr la dynamique régionale. Et sur les 5 piliers, l'un des piliers principaux, c'est le pilier du dialogue démocratique entre les communautés mais évidemment vis-à-vis de leur État puisque l'un des moteurs du conflit est souvent le rôle de l'État, de la relation de l'État avec sa société. Que les deux cherchent souvent, bien sûr, à travailler ensemble et ce n'est pas toujours facile.
Et par rapport à ces piliers, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain dans l'exécution du
Alors,
projet?
Alors, on est souvent accusé, bon, le dialogue, c'est bien, mais ça n'apporte pas grand-chose de concret. Là, je voulais vraiment voir si ça apportait quelque chose et en effet, j'ai quand même vu là, des vrais résultats. Donc, des communautés qui commencent à se mobiliser par rapport à leurs devoirs, mais à leurs droits également. Des communautés qui demandent plus de services de l'État, qui sont beaucoup plus vociférantes et qui se positionnent pour trouver des solutions entre elles, des problèmes par rapport aux conflits présents et qui veulent que les services de l'État soient remis en fonctionnement pour avoir les services de qualité dont ils ont besoin. Donc on trouve quand même un vrai dialogue entre les autorités elles-mêmes, les communautés et le but des premiers projets, du reste du projet dans le domaine de la relance économique et de la restauration de l'État. Donc on voit bien que c'est un projet sur 18 mois, on est à peu près au 6-7e mois et on voit bien que c'est pas terminé, donc ce sont des progrès et qu'il faut aller de l'avant. C'est comme je viens juste d'expliquer aux équipes que 50% du projet se fait également avec la RFO.
Quel va être le rôle de la RFO dans ce projet?
Le rôle de la RFO, c'est un rôle qui est très important et très difficile en même temps, puisqu'il y a des communautés qui pensent qu'elles sont exclues de la RFO parce que c'est devenu une réserve protégée au niveau mondial, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est là où le dialogue rentre en compte que tout le monde a à gagner de la RFO et que ce n'est pas, au contraire, quelque chose qui crée une discrimination ou qui exclut certaines communautés, surtout les communautés autochtones, par exemple, et qu'il faut prendre en compte les besoins de toutes ces communautés qui, elles, en bénéficieront sur le long terme, puisque la RFO a un énorme potentiel de tourisme et donc de développement économique pour toute la région.
Est-ce que vous avez pu remarquer par exemple sur le terrain que finalement la tension a baissé entre les communautés riveraines et la RFO?
Ça je peux pas vous le dire, ça serait pas honnête de vous dire oui bien sûr j'ai noté une baisse de tension parce que je n'ai pas de ligne de départ. Mais ce que j'ai noté par contre c'est-à-dire une attitude qui vraiment recherche une solution à des problèmes de la part des communautés au sein de la RFO, de la RFO vis-à-vis du territoire, dans tous les sens. Vraiment c'est de demande, où il y a même une inquiétude des communautés de nous dire et des autres interlocuteurs de nous dire, mais mon Dieu, ce programme s'arrête au bout de 18 mois, c'est pas une bonne chose. Il faut que ce programme, qu'on soit accompagné plus longtemps pour qu'on solidifie ce développement et les activités qui suivent. Donc, on pourra voir au bout de 18 mois. Mais étant donné que c'est un projet pilote, je pense que surtout les États membres, les bailleurs de fonds derrière l'ICA-13 seront très intéressés des conclusions qui ressortent de ce projet. Parce que, après tout, on parle d'un projet qui est quand même sur un budget de 5 millions de dollars, qui est un projet donc financé par le PBF et la Norvège. Et c'est pas des millions et des millions, 5 millions c'est une somme honnête, mais c'est aussi raisonnable et que c'est quand même avec ce type de projet de financement, on arrive à... Je suis en train de voir qu'on est en train de faire beaucoup de choses par rapport à des financements beaucoup plus larges, des millions et des millions en bâtiments parfois qui n'ont pas apporté dans la première phase de l'ICA-13 les résultats escomptés.
Et dans le volet économique, qu'est-ce qui est fait sur le terrain?
Pour l'instant, dans le volet économique, vous avez les AGR.
Ça veut dire
C'est-à-dire toute la relance agricole. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre aux agriculteurs de pouvoir retravailler ensemble parce que c'est évidemment des communautés qui sont très agricoles et souvent les problèmes sont liés à ça, mais il y a également...
Qu'est-ce qu'on va apporter à ces agriculteurs? Est-ce que le projet leur apporte des semences, c'est de l'encadrement, des formations? Qu'est-ce que le projet leur apporte?
Alors, il y aura des semences, il y aura tout ce côté très classique du développement, ça c'est très bien, mais il y aura également par exemple le volet foncier. Vous avez souvent des zones qui sont en conflit entre des différentes communautés parce qu'il n'y a pas des délimitations, il y a une mauvaise compréhension des titres de propriété et une des parties du volet c'est le foncier. Le foncier est souvent la deuxième dynamique de conflit de l'ICA-13, la terre. Et donc, nous avons pu rencontrer les spécialistes du foncier de l'État congolais et nous avons pu voir qu'avec le STAREC, avec qui nous travaillons, nous avons pu voir que s'ils arrivent à résoudre des différences, des conflits fonciers entre différentes communautés, voire parfois entre deux agriculteurs sur un espace de terre. Donc, vous voyez, la relance économique, et ce n'est pas que de donner, si vous voulez, des produits, c'est également trouver des cadres juridiques qui permettent à tout le monde de pouvoir trouver son emplacement et de travailler tranquillement.
Mais sur terrain, apparemment, on a compris avec les bénéficiaires, nous avons pu remarquer parquet, par exemple, qui a une confusion par rapport à tous ces projets, qui fait quoi exactement? Est-ce que finalement, les agences d'exécution sur terrain, tout va aller, par exemple, vers le Starec ou bien des ONG congolaises? Comment est-ce que vous entendez canaliser ça? Parce qu'on se dit, est-ce que c'est la MONUSCO qui fait? Est-ce que ce sont les ONG? Comment est-ce que vous entendez faire comprendre ça?
Non, le projet est d'abord sous la gouverne du Starec. Nous sommes très accrochés à cette dynamique. Le Starec est le partenaire qui est soutenu par, disons, c'est l'ordonnance présidentielle de mai 2014 qui relance le Starec. Et l'I4S est la stratégie de stabilisation pour l'Est du Congo qui est utilisée par le Starec. Le Starec Bounia, qui est un partenaire très proche pour nous, qu'on soutient énormément, qui a le lead sur ses activités, a en toute franchise géré cette visite sur le terrain. Cette visite était une visite de communication également. C'est-à-dire qu'on voulait voir les partenaires et les bénéficiaires pour expliquer mieux qui faisait quoi, qui était responsable de quoi. Et quand je regarde le partage du temps d'intervention, moi je dirais que 70% c'était des interventions par le représentant du Starec et 30% par moi. Donc on voit bien que c'est ce que nous voulions. L'État congolais est en charge et les communautés sont les premiers bénéficiaires de ce projet.
Richard Lafalaise, je vous remercie.
Merci beaucoup, Radio Okapi.